Locaux présente ses podcasts en ligne. Wendy Delorme, merci d'être avec nous pour Locaux, pour cet entretien Comédie du Livre. Et alors, je voulais te proposer pour décrire toutes tes vies quelques mots, notamment les mots enseignante chercheuse à l'université, écrivaine, mais aussi militante féministe, pro-sexe, performeuse burlesque, militante LGBTQ+, et un dernier mot, car tout comme Audre Lorde ou Monique Wittig, tu as fait de Gwyn un blason, décrivant aussi ton rapport au monde. Est-ce que ces mots, ils te conviennent? Est-ce que tu veux les changer? En rajouter?
Ben, je pense que ce qui traduit le mieux mon rapport au monde, c'est l'écriture, et que tout ce que tu as cité, c'est présent dans mes livres. Voilà.
Je te remercie. Et justement, je voulais commencer par parler de quelque chose que peut-être tout le monde ne connaît pas, c'est le fait que tu sois poétesse aussi membre du collectif RERQ. Donc, pour rappel, un collectif d'autrices composé de Rebecca Chaillon, Camille Cornu, donc toi-même, Claire Finch, Elodie Petit et Etienne Zwer. C'est vraiment un univers très singulier, avec notamment des écrits qui sont considérés comme porno-weird, porno-étrange pour certains, sexuellement libérés, dépassant la binarité de genre, les corps normés valides aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ce collectif et comment cette aventure a commencé?
Alors, sauf erreur, on est en 2017 et Taïne et Claire nous sollicitent en disant, voilà, on est plusieurs à écrire sur les sexualités, sur les corps, sur le désir, avec des styles et des points de vue divers, mais quand même quelque chose qui nous rassemble. Donc il y en a qui viennent du théâtre, comme Rebecca, d'autres plutôt de la poésie, comme Gorge, du coup, parce que Elodie Petit, son nom maintenant, c'est Gorge Bataille. Je trouve un nom magnifique. Mmh. Voilà, d'autres qui viennent plus de la prose et du roman, comme Camille Cornu, comme moi. Et Taïne qui développe des modes narratifs qui sont rhizomiques et qui sont entre la littérature et la poésie. Donc voilà, c'est des voix assez différentes. Et en fait, quand on s'est retrouvés sur scène, c'était la première fois, c'était à la station Gare des Mines, qui est un lieu culturel à Paris. Du coup, on s'est nommé RERQ, collectif de transport textuel. Voilà, ça nous a fait rire. Et on s'est senti un peu, c'était drôle, on est venu lire des textes sur scène, sans musique, pour cette fois-là. Mais on s'est senti un peu comme un groupe de rock. Parce que c'est ces énergies, ces six énergies ensemble qui ont créé une émulsion qui fonctionne. Ouais, vraiment, il y a quelque chose de très un peu punk, quoi, je crois. Voilà.
Très animal.
Ben, il y a quelque chose de punk dans notre façon de bosser aussi, parce qu'on est sur trois pays différents. Enfin, on est entre Berlin, Glasgow, Paris, Lyon et Marseille. Donc voilà, ça fait des... Donc on se voit pas énormément en physique, mais par contre, on a peut-être 3-4 dates par an. On se retrouve quand on est programmé. En fait, pour qu'on existe, il faut nous programmer. Et à chaque fois qu'on est programmé quelque part, on se lance un challenge et on y va, quoi. Voilà.
Alors, moi, je vous ai aussi découvert grâce à cet ouvrage collectif qui est sorti, sublime, je trouve, « Lettres aux jeunes poétesses ». Cet ouvrage dont je voulais aussi lire un extrait un peu plus tard, parce que je trouve vraiment qu'il est tellement précieux, déjà aussi pour toutes les personnes qui veulent écrire, qui écrivent aussi de la poésie, et pour aussi se sentir moins seule, se sentir soutenue. C'est comme s'il y avait plein de sœurs et plein d'adelfes qui étaient venues nous tendre la main et nous dire « ça ira pas forcément toujours bien », mais bon, on est là et vas-y. Donc cet ouvrage très très précieux. Et en tout cas, ce collectif, on le sent en fait. Et cette littérature vous permet de combattre la domination du système de langage identitaire hégémonique, pour reprendre dans le désordre des mots que tu avais pu citer lors d'une conférence pour Le Monde. Comment est-ce que justement ensemble vous avez cette même conviction de combattre ce système hégémonique, notamment du langage?
Ben, en fait... la manière de nommer le monde, ça crée des cadres de perception variés. Donc le langage, c'est quelque chose qui vient travailler le réel aussi. Et quand on écrit depuis une subculture, parce que je pense que c'est ça en fait, hein, qui nous relie, c'est qu'on écrit depuis les subcultures queer, on va avoir peut-être des vocabulaires et des modes narratifs qui nous sont propres. Alors chacun avec sa tonalité. Mais moi, c'est ça que j'aime dans l'écriture de mes camarades RERQ, c'est que voilà, qu'on lise Rebecca Chaillon, qu'on lise Etta Innsfer, qu'on lise Gorge Bataille, qu'on lise Claire Finch, qu'on lise Camille Cornu. Il y a quelque chose qui se déploie de l'ordre de... d'une forme de subculture politique et qui se joue dans la langue, en fait, dans le langage.
Alors tout à l'heure, lors de la rencontre avec Fanny Kahalo, tu disais aussi que tout est politique et que même si tu n'écris, entre guillemets, que des romans d'amour, t'écris des romans d'amour qui sont sacrément politiques. Oui. Voilà. Et je viens d'apprendre lors de cette rencontre qu'avec justement Gorge Bataille, vous avez fait la promesse d'écrire sur l'amour et le Gwynistan jusqu'à la fin de vos jours.
Alors on s'est fait, ah là là, je sais pas si j'ai le droit de le dire en public. Mon Gorge, tu m'excuseras. En fait, on était ensemble en résidence d'écriture il y a quelques jours. Et on a dansé, on s'est fait une soirée de lecture, on s'est partagé nos textes, on était 32. Et puis après on dansait, et avec Gorge, ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît vu qu'on est dans ce collectif. Et on s'est dit qu'on était vraiment ultra heureuses de se connaître, d'écrire ensemble, de faire de la scène ensemble et d'avoir cette amitié et cette camaraderie d'écriture. Et on s'est dit, vas-y, on fait une promesse. Et puis elle m'a dit, ouais, avec l'âge, t'es de plus en plus belle. Et je dis, mais en fait, il y a un truc, c'est que écrire à 20 ans sur les sexualités, écrire à 44 ans, ce qui est mon âge maintenant, sur les sexualités, j'ai envie d'écrire là-dessus jusqu'à mes 70, 80, 90 ans. Enfin, et je lui ai dit, en fait, vas-y, on se fait la promesse que jusqu'à la mort, on écrira sur le désir, sur les minorités politiques, enfin, de là où on parle, en fait. Et la première, quand elle l'autre, rappellera cette promesse le jour J. Voilà, donc c'est une belle promesse, je trouve, de se dire qu'on est tenu par des promesses comme ça, je sais pas, ça donne une structure.
Un contrat d'amitié, c'est un bel engagement
en tout cas. Un contrat créatif, ouais.
En tout cas, voilà, cet ouvrage, donc Lettre aux jeunes poétesses, m'avait beaucoup touchée, notamment avec un extrait que je vais lire. Peut-être tu pourras me dire de qui il était, parce qu'on ne sait pas précisément qui écrit,
oui,
vu que c'est collectif.
Oui, parce qu'on l'a créé à six mains, dans un document partagé, en ligne, et même moi, je ne suis pas sûre de qui a écrit quoi. Et donc, quand on a fait la première lecture publique de ce texte en librairie, quand le livre est sorti, j'ai découvert qui avait écrit quoi, parce que je m'en doutais, mais d'autres, j'étais pas sûre.
Ouais, parce que justement, bon, moi, il y a la lettre Chère santé mentale qui m'a beaucoup plu. Je la lirai pas parce que je veux que les gens ils achètent le livre, rien que pour ça.
Ouais, c'est moi.
À chaque atelier d'écriture, je la dis parce que vraiment, c'est un bonheur. Et cet extrait qui était un peu drôle aussi. Cher écrivain Gwyn, tu es badass et très puissante. Tu échappes au traitement mortifère d'une littérature pour les hommes. Tu es débarrassée, vaillante, forte, en dehors du marché. Profites-en pour parfaire une littérature qui explose gentiment dans toutes les mains hétérosexuelles, fait éclater les foyers nucléaires et pose des petites bombes menaçantes, poétiques, vives. Tu te rappelles de qui c'était ?
J'ai peur de me tromper. je pense que c'est peut-être Gorge Bataille ou Etta Innsfer. Peut-être c'est Claire Finch. Alors, vraiment, là, mais en fait, c'est vrai que les bombes poétiques... ouais, en fait, c'est drôle parce que chacun dans ce groupe a sa tonalité. Mais c'est peut-être Camille, hein. En vrai, mystère.
Ça pourrait être tout le monde, c'est ça qui est chouette.
C'est pas de moi, ça pourrait être elle aussi.
Mais Chère santé mentale, c'est toi.
Ouais, Chère santé mentale, c'est moi, ouais.
Ah, génial. On s'est aimé, on s'est quitté, on s'est retrouvé.
Ouais.
On s'est perdu de vue,
on s'est retrouvé.
Comme la chanson, j'adore. En tout cas, même aussi pour découvrir des poétesses comme Marina Skolova, etc., j'ai trouvé ça vraiment très précieux.
Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer
aussi. Donc voilà, je conseille. Et justement, vu que j'aimerais te raconter par tes livres, car il semble qu'ils disent beaucoup de toi, qu'ils déploient des morceaux de ton être, de ton identité. Déjà, est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'ils déploient des morceaux de toi, tes livres ?
Oui, parce que je suis dans... Enfin, je dirais que beaucoup de mes livres ont une dimension auto-fictionnelle. Et ceux qui sont vraiment... qui semblent être de la fiction, comme Le corps est une chimère ou Viendra le temps du feu, qui semblent peut-être les plus fictionnels. Même dans L'évaporé, que j'ai coécrit avec Fanny Chiarello, j'ai mis beaucoup de moi. J'ai mis beaucoup d'intime.
Oui. Ok, ouais, c'est assez précieux. Et même, on reviendra dessus, mais Devenir Lyonne, ta dernière parution, c'est aussi à la fois une enquête animalière et à la fois un récit plutôt intime. Donc,
c'est un récit intime, mais c'est pas autobiographique. Alors, il contient une vérité, mais les dates, les lieux, les relations qui sont décrites sont de la fiction en fait. Enfin, donc, je joue avec le rapport au réel.
Mais parlons-en, Devenir Lyonne, qui est donc paru en 2023 et qui part de ces connotations péjoratives et sexualisées des animaux femelles. On a tout en tête truie, cochonne, chatte, pigeonne, etc. On sait les sens de ces termes-là. Et toi, tu t'es aussi parfois montré une louve, notamment dans Viendra le temps du feu. Aujourd'hui, tu te dis devenir lionne. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi de faire cette enquête animalière, cette enquête presque sociologique et en même temps de délivrer ce récit intime ?
Alors, devenir lionne, c'est une commande d'une très grande amie, d'une très grande autrice aussi, qui s'appelle Isabelle Sorrente, qui est romancière, autrice, et qui... avec qui j'ai une camaraderie, une amitié littéraire depuis mon premier roman, qui est sorti en 2007. Donc ça fait un moment, plus de 15 ans. Hein. Et en fait, Isabelle, elle a lu tous mes manuscrits, moi j'ai lu tous ses livres, et elle a failli être l'éditrice de Viendra le temps du feu. Elle a lu ce manuscrit deux ou trois fois, elle a vraiment fait du ligne à ligne, elle a été une incroyable conseillère sur ce roman. Et elle a pas lâché l'idée de me publier, parce que quand elle a créé avec Clara Dupont-Mono une collection chez Lattès, dont le principe c'est un animal, un auteur, ou une animal, une autrice, enfin voilà, l'idée c'est que chaque auteur-autrice s'empare d'un ou d'une animal. Et elle m'a dit, j'aimerais que tu écrives pour cette collection. Je dis d'accord, mais moi je suis pas spécialiste du rapport humain-animal. Et elle m'a dit, si, écris sur la lionne, tu es lionne. Et je peux pas dire non à Isabelle, parce que je l'aime trop. Et que j'avais envie d'honorer cette amitié créative, qui m'est très précieuse, qui m'a vraiment portée, y compris dans des périodes de doute. Et elle m'a fait écrire ce texte dans le sens où elle m'a lu en cours d'écriture, ce que je fais rarement. Je fais ça qu'avec des amis très très proches, hein, de faire lire un embryon. Et elle m'a aidé à développer le texte. Et j'ai réussi à faire quelque chose qui ne soit pas cliché, je pense. Puisque j'ai emprunté à Isabelle ce format de l'enquête. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour parler de la lionne comme signe astrologique, je ne suis pas là pour parler de la lionne à laquelle je pourrais m'identifier. Je suis là pour parler vraiment de la domestication animale et de la domestication des femmes, et en même temps, ça porte un récit intime.
Magnifique. Et tu parles beaucoup d'Isabelle Sorrente, notamment sur tes réseaux sociaux. On sent que tu la portes dans ton cœur et dans ton écriture aussi. Comment tu décrirais son écriture à elle ? Comment tu décrirais son style, ses romans pour celles et ceux qui veulent la découvrir.
Isabelle écrit aussi des essais, donc elle n'est pas que romancière. Et peut-être... Alors Isabelle, elle m'a dit un jour qu'elle avait lu quelque part qu'il y a deux types d'auteurs. Il y a les peintres et il y a les musiciens, les peintres et les musiciennes. Isabelle, je crois qu'elle est, les deux. C'est-à-dire que son écriture va vous faire apparaître des images. Par exemple, dans La femme et l'oiseau, il y a une image très claire qui m'apparaît, une scène où, dans la neige avec des bouleaux, des arbres, et où l'un des personnages vit une épreuve terrible pendant la Seconde Guerre mondiale et se met à parler aux arbres. Et cette scène, elle m'apparaît visuellement. C'est un moment de peintre, en fait. Mais il y a aussi une musique. Il y a une musique très claire dans son écriture, très claire au sens de limpide. C'est un style d'une élégance et d'une fluidité rare. Donc voilà, moi j'aime. Et qui lui ressemble ? Qui lui ressemble, ouais. C'est quelqu'un de très élégant, humainement parlant.
Et alors, pour parler de toi, de ton processus d'écriture et de ton style, tu redisais lors de cette rencontre que tu n'as que deux styles, la prose en alexandrin muet et le flux verbal. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux facettes, de ces deux couleurs d'écriture, de ta musique à toi, finalement ?
Moi, je me suis fait la réflexion parce que là, je suis sur deux projets en même temps. Donc, il y en a un qui va être un roman à caractère historique et familial et intime, et que je suis en train d'écrire un peu comme j'ai écrit Viendra le temps du feu, c'est-à-dire en alexandrin muet, il a quelque chose d'assez lyrique. Et l'autre que je suis en train d'écrire est plus comme mes tout premiers textes, c'est de l'autofiction, enfin non, c'est plus de la fiction, mais quand même, le personnage qui raconte, c'est comme, oui, c'est ce flux verbal d'une fille qui raconte sa vie, quoi. Et donc là, c'est plus de l'oralité. Et j'aime bien ces deux modes narratifs, mais je me rends compte que même quand je suis dans un style oral, maintenant, il y a une rythmique qui me revient, qui est celle de l'alexandrin. Et donc j'ai comme une obsession avec cette rythmique-là, Je me dis, est-ce que je vais arriver à en sortir?
Tu sais d'où ça vient?
Oui, ça vient du bac et de Phèdre. On a étudié Phèdre de Racine, je m'en suis jamais remise parce que bon, ça avait beau être un texte au programme du lycée, quand j'avais du coup 17 ou 16-17 ans, puisque le bac L à l'époque, le bac littéraire, on le passait un an avant le bac. C'est une forme de poésie qui m'a jamais quittée et qu'on peut travailler dans la prose. Et il y a aussi des autrices qui m'inspirent énormément, comme Chloé Delhomme, qui travaille beaucoup la rythmique. Donc elle peut être en octosyllabe, en alexandrin, elle a une rythmique plus déployée que la mienne, et elle a plus de métier aussi. Et Chloé, elle écrit beaucoup avec la rythmique, et quand je la lis, je la sens, sa rythmique. Ouais. Donc c'est ces inspirations-là, des inspirations très classiques et des inspirations d'une autrice plus contemporaine.
Tu sens sa musique. Et alors, sur le process d'écriture, c'est marrant parce que tu rappelais encore que tu écris sans plan, souvent en connaissant la première et la dernière phrase du livre, comme pour « Viendra le temps du feu », mais tu dis aussi être binaire dans ta passion pour la symétrie. Donc je me demandais quel est ton rapport à la liberté et aux limites dans l'écriture.
Bah, les textes me viennent de façon... comment dire ? Organique, c'est-à-dire que je vais développer du matériau, je vais écrire. À un moment donné, il va falloir organiser ce matériau. Parce que j'aime bien l'idée de développer une intrigue, qui a un fil narratif. Donc ça se fait de manière concomitante, j'écris sans plan, j'écris avec une idée en tête, je sais déjà plus ou moins mon dénouement. Mais comment on va de la scène initiale au dénouement, je ne le sais pas encore. Ça se dessine au fil de l'écriture, donc il y a les moments où j'écris, où ça vient tout seul. Et il y a les moments où vraiment je vais me poser, je vais résumer tous mes chapitres en quelques phrases, je vais les mettre comme un sommaire, voir si je bouge un chapitre d'endroit pour rendre la narration plus intéressante ou plus logique. Et ça se fait en même temps, en fait, ça se fait de manière organique. Et c'est vrai que quand j'ai des étudiantes ou des étudiants qui m'envoient leur plan pour leur mémoire, parce que je suis enseignante à l'université, je leur dis oui, c'est bien, mais un plan ça peut bouger. Donc, enfin, moi, j'ai tendance à penser que le plan vient aussi avec la matière, voilà. Que ça se dessine aussi au fur et à mesure, comme on tisse, on se dit tiens là je vais changer de couleur, et puis là le motif va se déployer comme ci, puis donc t'es à la fois sur du court et du long terme, tout le temps.
Intéressant. Et en parlant de ta matière, pour revenir aussi aux origines de cette matière, ton premier ouvrage, c'était Quatrième Génération, en 2007. Ensuite, tu enchaînais avec Insurrection en territoire sexuel en 2009, puis La mère, la sainte et la putain en 2012, et Le corps est une chimère en 2018, qu'on pouvait d'ailleurs retrouver sur le stand de la Comédie du Livre, là en ce moment. Je me demandais... Comment est-ce que ces ouvrages y racontaient le début de toi? Comment est-ce qu'ils racontaient justement cette écrivaine de 20 ans aussi? Est-ce que tu peux nous parler de ces ouvrages, de ce qu'ils ont apporté, de ce qu'ils disaient de toi et de ce qu'ils disent encore de toi?
Bah, en fait, il y en a eu trois qui se sont suivis d'assez près au début. Donc, Quatrième Génération, Insurrection en territoire sexuel et La mère, la sainte et la putain. Ces trois-là sont assez rapprochés, sont dans une veine assez similaire, même si je pense que avec le premier, je suis dans de l'autofiction et un flux verbal. Et plus on avance, et plus ça va vers quelque chose de rythmé et plus lyrique et plus poétique. Mais ces trois-là vont ensemble, sont assez proches. Après, il y a eu quelques années où j'ai pas écrit. J'étais concentrée sur mon travail académique à l'université. Et j'ai eu un enfant, un premier enfant. Donc voilà, il y a eu. Et puis j'ai perdu foi dans l'écriture aussi à un moment donné. Et c'est l'amitié avec Isabelle Sorrente qui m'a tenue. Je suis revenue à l'écriture avec Le corps est une chimère et c'est un livre qui m'a remise en qui m'a remise dans l'écriture. C'est un livre qui est écrit d'une manière assez différente parce que je l'ai écrit le style est assez transparent, il n'y a pas d'effet de manche, il n'y a pas d'oralité non plus, et j'écris à la troisième personne et j'ai 7 personnages. Donc là je suis sur vraiment autre chose, je suis plus sur un roman, voilà, moins sur l'autofiction, même s'il y a deux des personnages qui sont très basés sur mon expérience de vie. Une plus jeune et une moins jeune. Donc, un qui m'incarne moi à 25 ans, l'autre moi à fin de trentaine. Voilà, et celui-là, c'est un livre de remise en jambe. Et après, il y a eu Le temps du feu, où là, j'ai vraiment été complètement sur autre chose. Ce livre m'a tenu 3 ans, c'est celui que j'ai mis le plus longtemps à écrire. Il m'est venu avec cette rythmique d'Alexandrin Muet. Et c'est un livre qui peut sembler une pure fiction, mais j'ai mis énormément d'intime dedans. Énormément de mes questionnements politiques et intimes. Et là, on est sur autre chose, c'est comme un cap, un peu.
Oui, c'est l'impression que ça donne, puisque justement, ainsi vaincra le temps du feu. À chaque fois, je viendra le temps du feu. Je change tout le temps, je suis désolée. Eh bien, j'ai d'ailleurs appris, figure-toi, que lors de ce salon de la Comédie du Livre, que c'était la meilleure vente encore aujourd'hui de la librairie indépendante et engagée Fière de l'être, avec qui tu étais les derniers salons de la Comédie du Livre. Elles étaient trop contentes de me dire ça.
Je les aime beaucoup.
Donc, tu es ce livre, c'est leur meilleure vente encore aujourd'hui. Voilà, je l'ai appris.
Elles ont beaucoup défendu ce livre. Elles m'ont invité deux fois à la Comédie du Livre. J'aurais même apporté des fleurs, je crois, la deuxième fois. En fait, leur accueil est tellement génial. Et les libraires sont vraiment le fer de lance de la chaîne du livre. C'est les personnes qui vont vraiment parler du livre au lectorat, qui vont faire qu'il existe en librairie. C'est un travail de curation. Il y a tellement de bouquins qui leur arrivent sur catalogue. Quand un libraire choisit de vous défendre, c'est un cadeau du ciel, vraiment. Enfin, et en fait, dans Le Temps du Feu, je parle des librairies et des libraires et de qu'est-ce qui se passerait si les librairies étaient interdites. Et en fait, je pense que j'y donne aussi des pistes sur mon amour des librairies et des livres, quoi.
C'est assez présent, en effet.
Bon, je suis très attachée à certaines librairies, très très attachée. Fière de l'être, j'ai pas l'occasion d'y aller souvent parce que je viens pas souvent à Montpellier, mais il y a l'Hydromille-Tête à Marseille, il y a la Franchie à Lille, il y a la Nuit des Temps à Rennes, il y a à Lyon où j'habite, il y en a plusieurs que j'aime vraiment beaucoup, comme Rive Gauche, Terre des Livres et Ouvrir l'œil. Enfin, il y a des librairies à Paris, voilà, Violette & Co, dont j'espère que ça va pouvoir rouvrir parce que les libraires historiques de Violette & Co ont dû passer la main, quoi. Après plus de 15 ans aux commandes, enfin, une librairie incroyable. Les Mois à la Bouche aussi, qui est devenue une coopérative, si je me trompe pas, enfin, qui a... Voilà, je suis très attachée aux librairies.
C'est super important d'en parler, tu as raison. Et alors, cet ouvrage, j'ai vu que tu avais dit que ça venait après une crise d'à quoi bon, donc une crise de sens, et que ça t'avait permis aussi de te rappeler que l'écriture était ta colonne vertébrale. Et en effet, c'est un livre si intense, écoféministe bien sûr, mais aussi terriblement et effrayamment d'actualité, qui propose divers monologues de personnes queer dans un roman choral avec au centre la question de la privation de liberté dans un monde dévasté, mais aussi de la différence dans une société normée, de l'amour, Sorore et Adelphe, et des livres comme motif d'évasion. Qu'est-ce que ce livre a apporté à ta vie, et qu'est-ce que tu as apporté de toi et de ta vie à ce livre ?
En fait, ce livre, il a une histoire particulière. Déjà, quand j'ai commencé à l'écrire, les premières phrases, elles sont mortes toutes, il n'y a pas de traces. Les premières phrases, elles me sont venues comme si elles m'étaient chuchotées à l'oreille. Dans un train, je rentrais de Paris, j'avais eu rendez-vous avec une éditrice qui avait refusé le manuscrit précédent, qui a fini par être publié ailleurs, d'ailleurs, Le Corps est une chimère. Mais j'avais une crise d'à-quoi-bon en me disant, en fait, pourquoi j'écris... je sais pas. Ça m'est venu, je pensais que ce serait comme un monologue de théâtre, je savais pas trop qui parlait. Ça s'est dessiné petit à petit, après un autre personnage est venu, puis un autre personnage, et ça m'a tenu 3 ans. Et j'ai eu l'impression, alors ça peut sembler un peu mystique de raconter ça, que ce livre existait déjà, quelque part comme à côté de moi, et qu'il fallait juste tirer le fil, doucement, pour que ce livre prenne forme dans mes cahiers, dans mon ordinateur. Donc ça m'a tenu 3 ans, et j'en garde l'idée qu'il y a des livres que j'écris comme mus par ma volonté. Donc là, il y a un roman que j'écris, un court roman d'amour contemporain qu'on m'a commandé, que j'écris mu par la volonté. Quelque chose de très voulu. Mais celui-là, il m'est venu comme s'il existait déjà quelque part et qu'il fallait juste écouter et retranscrire le plus finalement possible. Ça peut sembler complètement barré de raconter ça, mais...
Non, c'est intéressant, parce qu'on sent en effet que tu fais parler ces diverses voix et que tu parles aussi du pouvoir de la littérature et d'un pouvoir qui parfois peut être presque mystique, du pouvoir des livres, du pouvoir de ce que c'est que d'écrire. Et finalement, je trouve que cet ouvrage a été beaucoup décrit comme une dystopie, mais il y a presque une utopie dans une dystopie, avec cette communauté qui vit entre forêt et montagne, de l'autre côté du fleuve, dans l'ailleurs du territoire de la société hégémonique régie par ces anonymes que tu appelles les autres. Est-ce que tu peux nous parler de ces hors normes qui refusent les injonctions, de leurs convictions, de leurs rituels, et en quoi est-ce qu'on peut un peu les rapprocher, justement, en parlant de mystique, de sorcière, 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 je ne sais pas ce que tu préfères comme terme.
En fait, oui, dans ce roman, bah, moi, j'ai pas voulu écrire une dystopie, une utopie. Enfin, En fait, c'est drôle parce qu'il a aussi circulé dans des festivals de science-fiction. Il a été nominé pour des prix de science-fiction. Enfin, en tout cas, de ce qu'on appelle littérature de l'imaginaire, qui regroupe des genres littéraires assez variés, dont la science-fiction. Ce n'est pas un roman de science-fiction, mais il est apparenté à la littérature de l'imaginaire. Mais j'ai pas choisi d'écrire un genre littéraire en particulier. Le livre m'est venu comme ça, en fait. Et je pensais qu'il allait intéresser 200 personnes. Et en fait, je me disais, voilà, je suis là pour parler à mes sœurs, au sens large, parce que ça peut être des personnes qui ont été assignées femmes à la naissance ou pas, des personnes qui se reconnaissent ou pas dans le genre féminin. C'est pas le point. Le point, c'est que c'est des personnes qui sont dissidentes et dissidents de ce système normatif, qui carcéral presque, qui détermine, qui prédestine nos vies. Et je me disais, bah, c'est pas grave, il y aura que 200 personnes qui vont se reconnaître dedans, mais ce sera les 200 personnes avec qui j'ai une communauté politique et spirituelle, quoi. Et en fait, il a dépassé les 25 000 ventes, et je suis hyper étonnée. Enfin, comment dire? Je me dis, ok, donc en fait, j'ai une leçon à en tirer, c'est-à-dire qu'on pense qu'on parle à 200 personnes, et qu'on se dit, c'est pas grave, en fait, je m'en fous. J'ai besoin de faire ce livre-là, ben, c'est là que plein de gens se reconnaissent dedans. Et je me suis dit, ben, en fait, finalement, il ne faut pas se poser la question du lectorat. Mais il y a une autrice que j'aime beaucoup, que j'admire énormément, qui m'a dit ça aussi, c'est Léonora Miano. Elle m'a dit, en fait, si on se souciait du lectorat, on n'écrirait pas. Et le livre que j'ai écrit en me disant, il parlera que à 200 personnes, ben, c'est le livre qui a le plus parlé. Donc je me dis que c'est peut-être un truc d'authenticité ou de juste faire le texte qu'on a besoin de faire, en fait. Et comme dit Léonora Miano, que j'admire énormément, elle dit « le texte a ses raisons ». Donc faut juste suivre le texte, on verra après.
Et ça m'a fait penser à une phrase en lisant ce texte et en le relisant, c'est que l'écriture, parfois, c'est la somme de nos solitudes amassées au grand jour. En tout cas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu juste de ces personnages, de ces voix, de leur rapport à ta vie aussi?
Alors Eve, oui, c'est la première voix qui m'est venue et c'est ma voix. Enfin, c'est la voix. Les autres personnages, que ce soit Louve ou Louise ou Raphaël, Grace, l'enfant. Je crois que j'oublie personne. Il y a Rosa aussi. Voilà. Ces personnages-là me sont venus. Alors on peut trouver des. Forcément, quand tu crées un personnage de roman. Il y a certaines dimensions de leur être qui sont inspirées par des gens que tu aimes. Mais ces personnages-là me sont vraiment venus comme des archétypes, presque. Ou en tout cas, comme des gens qui existaient déjà quelque part. Donc Raphaël, oui, je peux te dire que, par exemple, il est inspiré d'amis que j'ai qui sont des dissidents de la masculinité. Parce que ce sont soit des garçons gays, soit des garçons trans. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la dissidence, du refus, ou en tout cas, même au-delà du refus, de ne pas se reconnaître dans l'assignation à être un homme, quoi, ou dans l'assignation à être une femme. Donc c'est des dissidents du genre, ouais, que je connais dans la vraie vie, mais ce personnage ne. Il y a quand même, s'il y a un texte qui m'a, je pense, inspiré sans même que je le conscientise, c'est un texte de Marguerite Lelouvier qui s'appelle « Tout corps prend feu ». Et je crois que j'ai conscientisé, après avoir écrit le bouquin, j'ai dit à Marguerite, qui a participé avec moi à des lectures publiques, qui a lu des extraits de Raphaël, et je lui ai dit « Je pense que tu as été une inspiration majeure pour ce personnage. » Et à plein d'égards, ouais.
En tout cas, c'était une année et deux années qui étaient très présentes autour du feu. Je me rappelle aussi de Digley qui avait sorti son
anthologie avec le mot feu. Ouais. Ouais.
Donc c'était vraiment l'année du feu, l'année d'une révolution. Et justement, ça fait quoi d'être une écrivaine engagée, féministe, queer? Aujourd'hui, tu es présente sur le stand de la librairie Sorams, donc plutôt avec un grand public. Et est-ce que tu as toujours été aussi intégrée au petit monde littéraire, ou est-ce que tu as pu être exclue aussi par ton engagement, par tes convictions et par qui tu es?
Bah, le paysage littéraire et des librairies a beaucoup changé en 15 ans. Ça fait un peu plus de 15 ans, 17 ans, je crois que je suis publiée. Là, je crois que c'est mon 8e roman. Enfin, au Devenir Lyonne, je crois que c'est le 8e, ouais, à peu près. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans... Déjà, il y a plein de librairies qui ont ouvert, les librairies que j'y citais tout à l'heure. C'est des librairies, certaines sont historiques, comme Les Mots à la Bouche et Violette & Co, d'autres sont plus récentes. Et c'est des librairies qui sont portées par une génération de libraires qui sont animées par les questions de justice sociale, de comment la littérature agit le réel. Ça, c'est un concept de Monique Wittig, le langage agit le réel. Et c'est dans ces librairies-là que des autrices comme moi, des auteuristes comme moi, sont portées, sont soutenues. Parce qu'il y a aussi un lectorat. Et donc le paysage littéraire a changé. Et aussi, on commence à former comme un courant, enfin un courant, je sais pas, je méfie de ces termes qui sont assez figeants a posteriori. Mais je suis. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du réseau, de la connexion créative qui s'est fait au fil des années. Et je suis aujourd'hui beaucoup plus en lien avec d'autres auteurs-autrices qui sont dans des veines similaires, pas forcément au niveau du style, mais des idéaux et des valeurs. Et on est très en lien, on s'échange des textes, on part en résidence ensemble, mais des résidences qu'on crée nous-mêmes en fait, des résidences autogérées, notamment une qui s'est créée sous l'initiative de Sandra Calderon et Marcia Burnier, qui est une autrice aussi de chez Cambourakis, et Sandra qui écrit aussi notamment pour le théâtre.
Donc vous inventez vos conditions de possible.
Ouais, en fait, on ne dépend pas que de l'institution littéraire, parce qu'en fait, on est très nombreux, très nombreuses. Il y a d'autres modes de publication que le livre dans la chaîne littéraire. Et en même temps, d'être en réseau, ça nous permet aussi de se soutenir pour avoir accès. C'est-à-dire que on va se conseiller, on va se conseiller des éditeurs à qui envoyer le manuscrit, on va se relire. Et voilà, c'est tellement vital, en fait. Ouais.
Et en parlant de réseau, ton ouvrage aussi que tu présentais lors de cette rencontre, L'Évaporé, écrit donc à quatre mains avec Fanny Chiarello, qui est paru lui en 2022, eh bien c'était justement l'idée de collaborer, de faire ce ping-pong narratif entre deux autrices, entre vous deux, puisque Fanny avait vécu cette rupture amoureuse terrible et souhaitait en faire quelque chose, avait besoin aussi d'aide, en fait, à appeler t'as lancé finalement une sorte de bouteille à la mer. Et ce que je trouve très beau, c'est que cet ouvrage, bon, si on veut savoir de quoi il parle, il y a une chronique sur Loco pour ça, mais cet ouvrage, il est aussi vraiment un acte soror, vraiment une main tendue littéraire, puisque dans la préface et la postface, vous écrivez aussi le process littéraire et comment vous avez réalisé cet ouvrage ensemble, voilà, de quelle manière et pourquoi, et vous dites aussi à quel point toutes les deux il vous a apporté, à quel point il vous a transformé, et Fanny dit même que tu l'as sauvé avec cette main tendue. Donc, à quel moment, voilà, tu savais que ça allait procurer ça à Fanny? À quel moment tu as distingué, voilà, ce projet littéraire parmi un autre que tu as pu réaliser et sa portée aussi humaine, tout simplement?
Bah, je m'y attendais pas du tout, en fait. En fait, c'est vraiment venu de Fanny qui m'écrit alors qu'on s'était rencontrés une seule fois, 3-4 ans plus tôt, à un salon du livre. On avait beaucoup échangé, beaucoup discuté, mais on s'était pas tellement. On habite très loin l'une de l'autre. Elle est dans le nord de la France, moi plutôt. Enfin, elle est à Lens et moi à Lyon. On s'était peut-être écrit 4 mails en 3 ans. Enfin voilà. Et elle m'écrit, elle me dit voilà, j'aimerais écrire à quatre mains. J'ai besoin d'un projet à deux. T'as l'air occupée, mais c'est vrai que j'étais en pleine promo du Temps du Feu. Je fais toujours d'ailleurs des interventions sur scène avec RERQ, avec le collectif RERQ. Mais j'ai aimé son mail et puis j'étais sensible à sa demande. Quand on s'est parlé au téléphone, on s'est mise d'accord qu'elle allait m'envoyer un premier chapitre et qu'on allait partir de l'idée que dans une histoire d'amour, il y a toujours deux façons différentes de vivre les choses, et jusque dans la rupture, qui est en principe de base assez, assez évident, mais écrire là-dessus, c'était comme un enjeu de, à la fois de création littéraire, mais aussi un enjeu thérapeutique, je pense, pour Fanny. Pour moi aussi, parce que j'ai mis des choses dans ce roman. Mon personnage est assez fictionnel, mais j'ai mis des choses de l'ordre de l'intime aussi. Et je pense que ça nous a apporté beaucoup en tant qu'autrice. Moi, il y a un avant et un après l'évaporé. C'est-à-dire qu'écrire au contact de Fanny, qui a plus de métiers, qui s'autorise plus de choses aussi d'un point de vue de la création littéraire, ça m'a fait grandir. Et j'ai vraiment pris confiance dans l'écriture. Je pense que mes camaraderies littéraires, qu'elles soient au très long cours comme celle avec Isabelle, avec qui on s'appelle régulièrement pour échanger sur des idées d'écriture, qu'elles soient ponctuelles comme avec Fanny, où on a passé quelques mois intenses à écrire ce livre ensemble, avant de reprendre nos chemins chacune de son côté. Ce qui n'exclut pas qu'on recollabore ensemble un jour, mais bon, voilà, c'était une expérience. Ou que ce soit des collectifs comme RERQ, ou une collaboration plus ponctuelle comme j'ai eu avec Élise Bonnard, avec qui on a écrit ce qui à la base est une pièce de théâtre, mais qui est devenue une nouvelle, qu'on a publiée dans La Déferlante. C'est à chaque fois, j'en sors renforcée. À chaque fois, j'en sors en ayant pris la confiance. Donc c'est vraiment formateur.
Oui, c'était l'année des écritures à quatre mains pour toi.
Ouais, à quatre, à six mains, enfin, six personnes fois deux, ça fait 12. 12 mains.
On sent aussi dans ta vision de l'amour, dans ton message de l'amour, qu'il y a une vision aussi de la générosité, du respect et des collaborations. Alors, on sentait aussi dans Viendra le temps du feu, quand il y avait cette explication de comment fonctionnaient aussi les relations d'amour, comment est-ce qu'on se les disait entre sœurs, d'une sœur à l'autre, et comment est-ce qu'on pouvait aussi être avec plusieurs personnes, mais tout en se respectant, tout en... Voilà, on sent aussi que tu portes une vision qui se veut progressiste et qui se veut aussi tout simplement respectueuse et généreuse. Tu travailles actuellement sur un nouveau roman, notamment deux, tu viens de nous le dire justement. Alors un, notamment, qui mettra en lumière une histoire d'amour saphique, hein, toujours, parce que ça te tient aussi à cœur, et merci pour la visibilité, dans une émission de télé-réalité. Donc tu disais que ce roman d'amour, il allait être rempli d'espoir, puisque après que tu aies écrit sur des couvre-feux, que les couvre-feux soient arrivés dans la vraie vie, que tu aies écrit sur une rupture amoureuse, et je suis désolée, et que ce soit arrivé dans ta vraie vie, tu disais que tu avais aussi peur, peut-être, d'écrire sur des choses qui allaient arriver. Donc là, tu écris sur une vision vraiment remplie d'espoir. Comme ça va te porter dans ta nouvelle aussi belle histoire d'amour qu'on te souhaite durer avec plein d'espoir. Tu peux nous parler de ce dernier roman, de ces deux derniers romans que tu écris ?
Ouais, alors c'est à l'état de projet encore, hein, mais après, j'aime bien parler de mes projets parce que ça les fait exister. Je sais pas, c'est un truc de... Bon, maintenant que j'en ai parlé, voilà, il va falloir...
Il va falloir l'écrire.
Ouais, j'en ai parlé, donc ça existe, voilà. Mais oui, alors je suis sur un roman qui m'a été commandé, en fait. On m'a commandé... Enfin, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Léonora Miano, qui lance sa maison d'édition, enfin, qui a lancé sa maison d'édition et qui va avoir une collection dedans de romans d'amour contemporain, assez courts. Et je lui ai envoyé quelques chapitres d'un roman que j'étais en train d'écrire, que j'ai commencé à écrire il y a, je dirais, quelques mois, ouais, un an, et qui parle de l'histoire d'amour, notamment de mes... Enfin, ça parle pas que de ça, mais ça parle notamment de l'histoire d'amour de mes grands-parents allemands qui sont restés ensemble 60 ans, jusqu'à la mort de mon grand-père, il y a 2 ans. Et ça parle aussi, du coup, de la Seconde Guerre mondiale, et ça parle de l'histoire du peuple de Silésie, et de... Voilà. Ça parle de ce qu'on ne se dit pas dans les familles, de ce qui est de l'ordre de l'indicible. Donc, et je lui ai envoyé, on s'est parlé, elle m'a dit, mais en fait, ça, s'il y a matériau pour faire un livre beaucoup plus long et beaucoup plus nourri, et du coup j'ai proposé autre chose, et je suis partie sur quelque chose de plus léger aussi pour le volume, hein. Donc l'idée que voilà, dans une elle m'a dit voilà, il y a des mythes comme le prince charmant, la femme idéale, et j'aimerais bien que si je vous ai demandé à vous d'écrire ce livre, d'écrire un roman d'amour, c'est parce que je pense que vous êtes à même, alors je la paraphrase, mais l'idée c'est qu'on fasse tomber ce mythe du prince charmant et de la femme idéale. Enfin, qu'en tout cas, on le montre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un mythe. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est plus criant que la télé-réalité pour montrer que c'est de l'ordre du mythe, et pour montrer aussi les dimensions socio-économiques des relations amoureuses. Parce que dans les émissions type Le Bachelor, ou toutes les émissions de télé-réalité autour de l'amour, c'est montré, en fait. C'est complètement exhibé, c'est fascinant sociologiquement. Et je me suis dit, ben voilà, le cadre, c'est l'émission de télé-réalité sur l'amour. Il y a 20 femmes dans un château qui sont censées conquérir l'homme idéal, mais tout va pas se passer comme prévu. Et je me suis dit qu'en fait, peut-être que c'était le moment de redonner foi dans la possibilité de vivre une relation amoureuse qui soit harmonieuse, respectueuse, durable et en même temps incandescente. J'avais envie d'écrire sur l'émotion de la rencontre, en fait. À partir du point de vue de deux personnes qui sont abîmées et qui se posent des questions... Enfin, qui pensent que c'est plus pour elles. Et en fait, quand même, une émotion va naître. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Voilà.
En tout cas, on a hâte. Pour terminer, sur tes réseaux et à la fin de tes livres, tu remercies beaucoup d'auteuristes, souvent queer, pour leurs inspirations, leurs représentations et leur soutien, parmi lesquels tu as déjà cité Isabelle Sorène, Chloé Delhomme, Paul Preciado aussi, et des auteuristes du coup qui sont féministes, qui sont queer, qui sont trans, etc. Est-ce que tu souhaites, pour terminer, leur adresser un mot d'amour ?
C'est des personnes qui, par leurs ouvrages, leur écriture, mais autant par l'exemple de vie, ont forgé mon expérience du monde et de l'écriture. Donc c'est au-delà du merci, en fait. C'est, voilà, vous m'avez faite, quoi, vous m'avez forgée. Enfin, vos textes m'ont forgée. J'ai le temps du feu, il y a toute une partie qui est complètement inspirée par un appartement sur Uranus de Paul Preciado. La Lyonne n'aurait pas existé. Devenir Lyonne, mon dernier livre n'aurait pas. Enfin, le dernier livre qui est sorti là n'aurait pas existé sans Isabelle Sorante. Le temps du feu n'aurait pas été tel qu'il est si Isabelle ne l'avait pas relu en détail 3 fois. Et j'aurais pas une certaine veine rythmique si j'avais pas lu Racine, mais aussi Chloé Delhomme. Et voilà, qui est aussi une autrice qui est très camarade, enfin qui aide d'autres autrices à nourrir leur écriture, et voilà. Donc c'est au-delà du merci.
Merci à toi, en tout cas, Wendy Delorme, pour cet entretien, et puis bonne fin de Comédie du Livre.
Merci.
Locaux présente ses podcasts en ligne.